qu'est-ce que c'est bon,
mais
ça.
Mais qu'est-ce que c'est bon.
Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h, 12h30.
Ça va, c'est la saison, ça.
Oui, ça, c'est bien.
J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Amis de la table, bonjour, soyez les bienvenus. Hein. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, vous le savez, pour défendre et goûter le meilleur du bon. Alors on vous emmène ce samedi pêcher et cuisiner les poissons rouges de Méditerranée dans un instant. Il y aura du rouget et du chapon. On va se réjouir aussi de l'ouverture prochaine hein, des restaurants avec le chef Bruno Verju. Après avoir été médecin, il prend désormais soin des autres avec les produits de nos régions. Il vient de publier « L'art de nourrir » aux éditions Flammarion. Un discours passionnant, vous entendrez. Et mes bons vivants, eh bien les voilà, ils sont en place, lui aussi. Il a hâte de retrouver son équipe en cuisine et de déplier sa terrasse. C'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Bonjour Laurent, bonjour Olivier.
Ça se rapproche, hein?
Ça se rapproche, ça sent bon le printemps.
Vous nous réservez une petite table pour de couvert?
Avec grand
faut réserver,
hein,
parce que tout le monde va avoir envie de retourner au restaurant, je le sens. Hein. Habitué à nous présenter sa sélection de la semaine tel à caviste, vous venez de l'entendre. Ce samedi, il a prévu des accords d'un autre genre. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Oui, vous m'avez contraint à un exercice d'équilibriste, on va dire.
Pas de vin aujourd'hui.
Ouais, on verra ça tout à l'heure.
Et d'autres
pas facile
liquides.
Non plus. Hein.
Pas fastoche, non. Et un peu avant midi, nous allons recevoir le jeune chef Maurice Acco. Vous dînez avec lui le samedi à 20h15 sur France 3. Et ben, il vient déjeuner avec nous ce samedi midi avec son mafé de bœuf. Allez, en route, joyeuse troupe. Alors, petit rituel, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous le savez, on se pose toujours la même question. Posez-vous là, hein, je sais que vous vous posez la question aussi, vous nous le dites régulièrement à la maison. Quel est votre goût de la semaine? Posez-vous la question donc en voiture, en écoutant le podcast. Ici, tiens, au studio Coluche, on va commencer par vous, Olivier Pouls. Votre goût de la semaine?
Eh bien, c'est une manière un peu originale de faire des asperges. Une copine qui m'a fait ça cette semaine et elle a fait des spaghettis d'asperges. Alors, la technique, c'est simple. Hein, vous prenez de belles asperges, c'est des blanches de gros calibre qu'elle a passées à la mandoline et ensuite, elle a coupé encore dans le sens de la longueur de manière à avoir des filaments d'asperges.
En julienne, une grande julienne.
Une grande julienne, simplement roulée dans un petit peu d'huile d'olive avec quelques herbes, sel, poivre, un peu croquant.
Pas mal.
Eh bien, c'était assez génial.
Ah, c'est bien, mais c'est vrai que...
Ça change complètement.
Ça change des asperges cuites trop longtemps à l'eau. Yves Candebord.
Eh bien, moi, je suis allé faire un gros bisou à mon papa et ma maman. Avant de reprendre le 19, j'en ai profité, je me suis échappé. Et je suis passé voir mon frère Philippe dans sa charcuterie. Et il avait fait une tarte au flan. Une tarte au flan que notre grand-mère Marthe, qui tenait l'hôtel de commerce à Navarinx, réalisait. Beau. Il a retrouvé cette recette. J'ai croqué dedans et j'ai eu les larmes aux yeux.
C'est vrai?
J'ai eu les larmes aux yeux parce qu'il y avait tout. Il y avait justement cette pâte qui était caramélisée, pratiquement caramélisée comme une crème catalane. Cette crème vanillée très moelleuse, très goûteuse. Et c'est là que je me dis quand même, la pâtisserie, elle est partie pratiquement sur la lune maintenant pour moi, la pâtisserie. Parce qu'on fait des mousses,
oui.
C'est sophistiqué, c'est technique, c'est très très
et
contemporain.
Ça, c'est
mais quand on revient
à
ces pâtisseries populaires, c'était une petite merveille.
Vous avez vraiment retrouvé le goût de votre enfance? On dit toujours que c'est compliqué. C'est vrai. Elle est où la charcuterie de votre frère?
Elle est au centre-ville à Pau, rue Gachet.
Et ben voilà.
J'ai vraiment retrouvé ce goût. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Mais qu'est-ce que c'est bon, l'émotion, et surtout en ce moment.
Et comment? Et c'est ce qu'on recherche en cuisine, justement. Et bien, mon goût de la semaine,
vous
moi,
vous l'avez apporté, là.
Je vous l'ai apporté. Il est gustatif et solidaire. C'est une association de jeunes producteurs de fraises, fraises de pleine terre, évidemment. Ils viennent de nous les envoyer. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps de la fraise. Ici, on a parlé de l'importance de les choisir cueillis à maturité. C'est ce qu'ils font. Ils sont dans le Lot, dans le Lot-et-Garonne, vendus dans 500 enseignes partout en France de grande distribution, hein, on peut le dire, vendus dans des barquettes en bois. Il y a de la sifflerette, de la gariguette. Et Yves, je ne sais pas ce que vous en pensez,
surtout
mais
qu'il y a,
ça sent la fraise. Hein.
Ça sent il y a du goût. C'est des fraises qui sont, là, on voit bien qu'elles sont bien mûres. Parce que pour voir si une fraise est bien mûre, c'est au niveau de la collerette.
Exactement.
Quand vous n'avez pas de traces blanches, que c'est bien rouge jusqu'au bout, c'est que votre fraise est mûre. Elles sont magnifiques.
Allez, c'est l'heure d'aller au marché, un marché particulier. En plein cœur de Strasbourg se trouve la Nouvelle Douane. C'est un magasin de producteurs. Arthur Mbaché, notre correspondant dans la région, est allé à votre rencontre dans ce marché fermier urbain. Alors, pourquoi préférez-vous la vente directe? Vos réponses.
Les asperges d'Alsace, on les attend tous les ans. D'abord, c'est local, et en plus, voilà, c'est un plaisir, on vit avec les saisons. Pourquoi j'ai ici? Parce que c'est du local. C'est un magasin de producteurs. Pendant des années, on voyait regarder le prix, la facilité. On va au supermarché, on achète tout. Mais maintenant que je suis retraitée, j'ai plus le temps de choisir mes magasins. Puis c'est quand même meilleur. Là, les fraises d'Alsace, elles n'ont pas fait 3 millions de kilomètres.
Je vois de la rhubarbe qui dépasse de votre sac.
et fraises. Vous pouvez me dire ce que vous allez préparer avec tout ça ?
Une compote de rhubarbe avec des fraises.
Le côté circuit court, c'est important ?
Ah oui, oui, oui. Surtout avec ce qui se passe actuellement, quoi. On a envie de faire vivre les gens qui travaillent pour nous, à côté de nous, et on a envie qu'ils en profitent aussi. Même si des fois, oui, certes, ça va se dépasser de quelques centimes au kilo ou quelques euros, mais au moins, on repart avec la conscience tranquille, et ça, ça n'a pas de prix, quoi, je pense.
Eh ben voilà, la conscience tranquille et des achats de qualité. En plus, merci Arthur Enbaché pour ce joli reportage en Alsace, ce joli micro-trottoir, comme on dit. Le circuit court, on en parle régulièrement ici à cette table. Voilà, il faut continuer vraiment à garder ce lien. On sait que la grande distribution aussi est essentielle pour beaucoup d'entre nous, pour plein de raisons. Mais le circuit court, il ne faut pas le lâcher, quoi.
Quand on peut, évidemment. Et puis, un petit clin d'œil à d'autres magasins, comme par exemple le Petit Paysan à Aix-en-Provence ou le Reux à Rennes, qui procèdent de la même manière.
Exactement. Allez, restez avec nous, chers amis, à suivre le Petit Rouget et la Grosse Rascasse à la table des bons vivants. Les poissons rouges de Méditerranée débarquent dans un instant. Bon samedi.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Oh, vous entendez le vent dans les haubans, dans les voiles?
On est en mer, là?
L'appel du large, eh bien on y est. Oh, vous le faites bien. On vous emmène sur la côte varoise pour prendre la température des étals des pêcheurs. C'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, vous le savez, on soutient nos restaurateurs, bien sûr, nos agriculteurs et nos pêcheurs, parce que c'est difficile aussi pour eux, Olivier.
Ben oui, vous l'avez peut-être constaté, le cours du poisson est plutôt à la baisse.
Ah oui.
Alors pour nos portefeuilles, c'est une bonne nouvelle, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les pêcheurs. Ben la raison, c'est que tout simplement, les restaurateurs n'ayant pour l'instant pas besoin de passer commande, ben y a beaucoup de poissons qui ne trouvent pas preneur, et donc les cours baissent.
Alors il y a de belles initiatives partout en France, je pense au Vallon des Eaufs à Marseille, par exemple, pour pallier la fermeture des restaurants. Eh bien les pêcheurs viennent vendre comme ça au cul du bateau, comme on dit, leur pêche du jour, et ils les vide même devant vous comme on le faisait autrefois, et vous repartez avec vos poissons d'une fraîcheur intégrale. Alors la bonne nouvelle quand même, Yves, c'est que de plus en plus de poissons pêchés et débarqués en France en ce moment sont des poissons de pêche durable.
Oui, il y a eu un dernier rapport de l'Ifremer en 2021. Il y a 60% des 400 000 tonnes de poissons contre 15% il y a 20 ans.
C'est ça.
C'est énorme la progression.
Pêche durable, ça veut dire que ce sont des poissons qui ne sont pas menacés de surpêche et qui se reproduisent régulièrement comme il faut au fil des saisons.
Oui, c'est des poissons qui sont fâchés, je dirais, avec un bon sens écologique et un bon sens de marins-pêcheurs sérieux et honnêtes.
Et il faut saluer la France, qui est un des rares pays en Europe, et on est en train de le voir justement avec nos amis anglais.
Ah bah oui, les Anglais, oui, ils ont pas de limite dans les eaux. Hein. Ah,
exactement, et la France a une politique qui est tout à fait raisonnable, et notamment que ce soit la Saint-Jacques ou plein d'autres poissons, pour protéger les ressources. Bravo.
Certes, on fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement, les marins-pêcheurs sont en train aujourd'hui de subir des conséquences de cet effort qu'on fait, nous les Français, quand on voit ce qui se passe sur les côtes normandes, avec le Brexit, oui, avec les Anglais. J'ai envie de vous dire, sur les terrains de rugby, les Anglais étaient des fourbes, et sur la mer, ils sont encore pires.
Des pirates.
Tiens, prends ça. Alors, avant de partir en Méditerranée, loin de l'Angleterre, alors du coup, est-ce que la pêche est bonne en ce moment en Méditerranée? Eh bien, notre correspondant dans la région, Frédéric Michel, le fameux, a rejoint Jean-Paul Mazella à son retour de pêche avec sa femme Fanny, qui vend les poissons au port de Sanary-sur-Mer. On écoute ce qu'il a pêché et on vous aide à les cuisiner juste après.
Là, actuellement, on fait beaucoup le rouget, les chapons, quelques langoustes aussi. Tous les pêcheurs ici, c'est des petits bateaux. On ne fait pas le grand large. C'est tout du poisson de roche qui se trouve dans les fonds de 35 jusqu'à 70-80 mètres. Voilà. C'est des endroits qu'on connaît depuis des années, où mon père allait.
Alors le chapon, c'est le poisson de roche par excellence.
Oui, chapon, c'est le poisson que je traque le plus.
Je vous mets déjà de l'essuie rouget.
Le rouget se prend dans la roche, il se prend dans l'algue, il se prend dans le sable. Déjà, il y a deux sortes de rouget chez nous, trois même. Le rouget blanc qu'on prend dans le sable, le rouget de roche qui est magnifique. Et après, vous avez le rouget d'algue. Le meilleur, c'est celui-là de roche. Il est vachement iodé parce que sur la roche, ils viennent manger un peu le corail, la gorgone.
Alors, j'ai de la lotte, j'ai de la raie, chapon et quelques rougets me restent.
On est directement sur le quai, puis les gens au moins peuvent venir faire leur marché tranquille.
C'est le paradis. On voit la mer, on voit tous ces bateaux. Et le matin, quand vous vous réveillez, que vous voyez ça, voilà, vous avez le sourire.
Et comment, je vous le confirme que c'est le paradis. Je suis allé faire la débarque avec eux, avec Jean-Paul et sa femme Fanny Mazella à Sanary-sur-Mer il y a deux ans. Bah voilà, j'ai vécu tout ce qu'on vient d'entendre grâce à Frédéric Michel, des poissons d'une fraîcheur absolue. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est le début de la saison du rouget, hein, ce poisson iodé, la bécasse de la mer.
Ouais, c'est la bécasse de la mer, absolument, parce que en Méditerranée, ils ne le vident pas, ils enlèvent juste le fiel, et sinon il est rôti comme ça. Et c'est vrai que c'est sans doute le poisson qui a le plus de goût, qui a le plus de puissance. Et pour moi, c'est un poisson qui mérite un peu de surcuisson quand on le rôtit.
Et oui, c'est vrai.
Quand on le rôtit sur l'arête. Parce que c'est là que toutes ces saveurs voilà, se détachent, explosent en bouche. Et c'est vraiment très agréable.
Il nous le disait, hein, Jean-Paul, il y a trois sortes de rougets en Méditerranée, mais il y a des concurrents fourbes aussi, attention.
Oui, attention, le rouget barbet, à ne pas confondre avec un poisson qu'on appelle parfois le rouget grondin, qui ne devrait pas s'appeler comme ça en réalité, parce que c'est le grondin rouge, et le grondin rouge n'est pas de la famille des rougets, c'est tout à fait différent.
Alors, on parlait de la rascasse, alors moi, il y en a un que j'adore et qui l'a pêché, là, c'est la grosse rascasse, c'est le chapon. Yves, comment cuisiner, tiens, un chapon ce week-end pour ceux qui auront la chance d'en trouver?
Alors, si vous avez la chance d'en trouver, moi, je le farcis. C'est-à-dire que vous avez fait demander à votre poissonnier de retirer les ouïes en gardant la tête, vous le faites vider. Et vous faites des champignons, tout simplement une duxelle de champignons avec un peu d'estragon, et vous le farcissez de champignons.
Champignons de Paris hachés.
Champignons de Paris hachés, juste avec un peu d'échalotes, bien, juste suées pour enlever toute l'eau de végétation. Vous le farcissez et vous le mettez au four, tout simplement, et vous le faites braiser comme ça, sans humidité. Pour un kilo de poisson, il faut compter 25 à 30 minutes.
Quelle température du four?
Un four à 140 degrés.
Ah oui, c'est basse température. C'est doux, quoi.
Et on va le laisser tirer comme ça. Et l'avantage, on revient toujours à la même chose, un poisson cuit sur l'arête, ça, il a vraiment la saveur du poisson.
Comme c'est une volaille à l'os.
Comme une volaille à l'os. C'est pas dénaturé.
Qui dit poisson rouge, dit vin rouge, les amis. Ce sont des poissons qui se marient très bien avec les vins rouges, et notamment avec les vins rouges de Provence. Un rouget avec un bandol ou avec un Côte-du-Rhône méridional, c'est absolument magnifique.
Alors tiens, dites-moi les amis, chers auditeurs, ça vous dirait de manger un poisson grillé en terrasse? Eh ben oui, on aimerait bien. Alors pas tout de suite, un peu de patience encore, hein. C'est pas tout de suite, mais ça se rapproche, oui, c'est le 19 mai les terrasses.
Moins 12.
On en parle justement de la réouverture des terrasse juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Le jeudi 29 avril, Emmanuel Macron a annoncé son plan de réouverture. Enfin, des lieux publics et culturels, restaurants inclus. Alors, je vous donne les dates. Hein. Mercredi 19 mai, c'est la réouverture des terrasses, dans une limite de 6 personnes au niveau des tables. Il y a toujours le couvre-feu à 21h. Et le 9 juin, réouverture des salles dans tout le pays également. Table limitée pour les groupes de 6 personnes maximum. Et là, le couvre-feu sera décalé à 23h. Donc voilà, ça, ce sont les dates et les horaires, parce que c'est important de les connaître. Yves Candebord, vous, le chef cuisinier, le bistronome de la bande, vous allez les rouvrir, vos terrasses?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir justement deux lieux où il y a des grandes terrasses qui vont nous permettre de retrouver de l'activité. Donc, on va les rouvrir le 19 avec un grand plaisir. Mais malheureusement, tous mes collègues ne sont pas dans le même cas, parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs, surtout sur des grandes villes comme Paris, où les structures n'ont pas de terrasses. Même si la mairie de Paris a proposé d'agrandir les terrasses, bon nombre n'ont pas de terrasses, donc il y en a beaucoup qui vont attendre encore avant d'ouvrir.
Alors, c'est vrai que la vraie reprise va être surtout autour du 9 juin partout en France, dans les salles. Mais moi, je voudrais quand même qu'on aborde un sujet que j'entends partout quand je parle avec les chefs cuisiniers, avec les restaurateurs, c'est le problème du personnel. Il y a plein d'équipes qui se sont scindées, c'est-à-dire que plein de gens ne vont pas revenir travailler en cuisine parce qu'ils ont découvert d'autres métiers, ils ont découvert les plaisirs de la famille et des horaires un petit peu normaux. Vous le ressentez, ça, Yves ?
Non, mais complètement, mais j'ai envie de dire, Laurent, c'est humain, quoi. Voyez, je prends mon exemple, j'ai commencé à 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, je travaille midi et soir dans un restaurant. C'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé pendant 7 mois en famille. Mais la vérité...
C'est que ça vous a plu ?
C'est que j'ai aimé, j'ai passé des moments fabuleux. Donc, de me remettre au travail, ça ne va pas être facile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire un choix différent. Il faudra un temps d'adaptation et on retrouvera dans les années à venir, voire j'espère dans les mois à venir, un équilibre. Mais c'est vrai qu'il y a eu un sondage de fait. Je crois qu'aujourd'hui, ils annoncent déjà de plus de 100 000 postes qui ne vont pas être occupés en restauration. Ça va être un souci pour nos entreprises pour pouvoir continuer à travailler dans des conditions financières optimales.
Certains restaurateurs que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ne seraient pas en mesure d'ouvrir aux dates annoncées. C'est-à-dire que peut-être...
Pas d'équipe.
Peut-être quelques jours ou quelques semaines après, à condition après avoir battu le rappel, ça morde. Mais sinon, il risque d'y avoir le paradoxe absolu de restaurants qui n'ouvriront pas faute de personnel.
Mais peut-être qu'il va falloir changer notre façon de travailler, changer notre façon de se comporter et trouver des solutions. Je crois qu'on est assez fort et assez intelligent pour savoir s'adapter et continuer à travailler.
Alors, petite devinette, tiens, à quelle terrasse avez-vous envie de vous attabler là, dès que ça va rouvrir là, le 19 mai?
Vous voulez dire en dehors de celle de Yves? Vous savez, moi j'ai tellement envie de terrasse, je suis tellement frustré de ne pas avoir été manger au restaurant depuis 7 mois que j'ai envie de dire, j'irai m'asseoir à n'importe laquelle d'entre elles. Alors, il y en a plein, que ce soit à Paris ou ailleurs. Moi j'aime bien l'idée des bistrots des grands chefs. C'est souvent des portes d'entrée intéressantes à la restauration.
Et accessibles.
Accessibles, hein, je pense notamment, à Beaumanière, où il y a une version bistrot de la cuisine 3 étoiles, en plus dans un lieu absolument incroyable. Ce genre de terrasse-là, il y a les terrasses d'hôtel à Paris qui sont magnifiques et dans lesquelles on peut manger à des prix encore à peu près raisonnables à condition de ne pas y aller
oui,
trop
c'est
fort.
Au Beau de Provence.
Là, moi, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller en Loire. J'ai envie d'aller en Loire parce que la situation aujourd'hui de la Loire par rapport au gel et par rapport à tous ces vignerons, qui sont vraiment en grande difficulté. Je vais dire deux établissements. Le Berlot à Montlouis-sur-Loire, un joli petit bistrot tenu par un Hervé, un vrai cuisinier qui a une petite terrasse qui est très agréable. Et après, la Route du Sel. La Route du Ciel aussi, au bord de la Loire, à Gênes-Val-de-Loire, où c'est une dame qui est en cuisine. Et on est face à la Loire. J'ai envie de me retrouver dans la nature. J'ai envie d'aller dans les régions un peu pour... On nous a empêchés de voyager, c'est peut-être ce qui me manque le plus.
19 mai, la réouverture des terrasses. Alors, les clients vont-ils être au rendez-vous? Ça, c'est la grande question que se posent les chefs cuisiniers aussi.
Il n'y a pas de doute,
mais il y a certains quand même qui ont un petit peu peur, qui n'ont pas peur du protocole mis en place par les chefs cuisiniers, mais qui ont peur des autres clients et qui ne respecteraient pas certaines consignes. On l'a vu sur sur le groupe Facebook des Bons Vivants.
Vous avez raison, parce qu'à un moment donné, ce qu'on a peur, nous, c'est que si on est obligé de fliquer tout ça, comme dire techniquement,
c'est
pas notre rôle. C'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir. S'il y a des débordements, il va falloir qu'on fasse la police. Et c'est surtout pas ce qu'on a envie. On a juste envie de travailler dans la joie et la bonne humeur.
Voilà, et tiens, je voudrais finir avec un mot d'une auditrice sur le groupe Facebook des Bons Vivants qui reflète bien la situation, parce qu'on est quand même à plus de 105 000 morts du Covid. Elle nous a laissé un message, elle dit voilà, je vais retourner au restaurant pour remercier une amie qui m'a aidé à faire mes papiers suite au décès de mon mari, il y a un mois, suite au Covid. C'est le moins que je puisse faire, qu'elle ne veut rien pour son aide. Merci Peggy pour tout ce que tu as fait pour moi. Bisous. Je trouve que ça reflète bien la situation du moment. Le drame de ce Covid et l'émotion, la joie, le plaisir que procure le restaurant aussi.
Et le besoin qu'on a de reprendre une vie sociale, ouais. De voir des gens, de revenir dans quelque chose de partage, tout simplement.
Ouais, déjà après le premier confinement, on a eu un soutien moral des clients qui était exceptionnel, d'ailleurs qui nous a donné la force et l'envie de continuer.
Et financier de l'État, faut pas l'oublier non plus. Ouais. En voilà un autre, tiens, qui se réjouit de l'ouverture prochaine des restaurants, c'est le chef Bruno Verjus. Sa philosophie du goût consiste à trouver le meilleur de nos régions, et bien on les sublime avec lui dans un instant. A tout de suite. Un peu de musique, tiens, avant d'accueillir le chef Bruno Verjus, on écoute M avec son bal de Bamako.
Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de Bamako. J'étais dans la comme un vertige sur la ville, moi, l'ami bou blanc imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise. Que j'étais à l'aise. Malice au mali des merveilles. Le mali Dieu créa la flamme. Le mali danse dans mon âme. On y soit qui mal y pense. Qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse. Au son des balles de Bamako.
C'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau, béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Ah, ça fait du bien le samedi matin. On adore et on est dans l'ambiance du Mali. Bien, à propos du Mali, on recevra le chef Maurice Sako tout à l'heure, dont les parents sont nés et ont grandi au Mali. Allez, c'est le moment d'accueillir notre premier invité. Dans une première vie, il a été médecin, puis il est devenu chef. Un chef engagé au service du goût. Bruno Verjus publie un essai, L'art de nourrir chez Flammarion. Un livre magnifique. Bonjour Bruno Verjus.
Bonjour.
Vous avez d'autres lignées. Bonjour. J'ai dit que vous aviez été médecin. Vous avez fait des études de médecine.
Non, j'ai fait des études de médecine, mais vous avez fait un saut quantique. C'est-à-dire qu'avant, j'ai aussi été chef d'entreprise.
Vous avez fait plein de métiers.
Médecin et cuisinier, c'est un peu pareil.
J'ai jamais finalement rien fait. Tu vois, j'ai toujours sauté de l'un à l'autre comme ça. Même aujourd'hui, je ne sais pas si je suis chef en réalité. Je suis un cuisinier.
En tout cas, vous êtes un cuisinier qui régale.
Un homme heureux.
Les Parisiens à table, c'est le nom de votre restaurant dans le 12e arrondissement à deux pas de la Bastille.
Oui.
On en parlait tout à l'heure, dans 11 jours c'est l'ouverture des terrasses. Vous allez ouvrir dans 11 jours, Bruno Verjus ?
Non, je n'ouvre pas, j'ouvrirai le 29 juin.
D'accord. Ah oui, parce que vous avez aussi, comme on en parlait tout à l'heure, entre guillemets, des soucis de retrouver le personnel et de remobiliser les forces vives, parce que d'autres ont choisi d'autres métiers aussi.
Oui, il faut reconstituer une équipe, absolument, c'est important. La bonne nouvelle, néanmoins, c'est que, probablement comme moi, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés sur le sens de leur vie, qu'est-ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient le faire, comme moi, en sautant comme ça de vies différentes, ce qui a le bonheur de les rendre plus longues, sans doute. Eh bien, les équipes aussi ont décidé de bouger un peu, mais comme ils ont bougé, d'autres ont décidé aussi de bouger et de venir chez moi.
Alors vous venez nous voir avec ce livre, L'art de nourrir, et je le dis à nos auditeurs, il faut lire ce livre parce que c'est un régal, c'est une caresse pour l'oreille. On se balade, on déguste à travers nos régions et le meilleur de nos produits parce que vous êtes un amoureux et un défenseur de nos produits comme de nombreux chefs, on va en parler dans un instant, mais vous avez un rapport particulier aux produits. Il remonte à quand ce goût pour la cuisine chez vous, Bruno Verjus ?
Ben, vous savez, quand j'ai décidé finalement de faire la cuisine, j'ai un peu... résumer ce que j'étais moi profondément, donc un enfant de la campagne, qui a grandi à la campagne, au milieu des vergers, du côté de Roanne, la Renaison exactement, entre une rivière, un verger, etc. Et puis ce que j'ai appris au cours de mes études, ce que j'ai appris au cours de ma vie. Et donc c'est vrai que probablement cette implémentation du goût, elle vient de mon enfance et que je l'ai résumé un peu tardivement, enfin pas si tardivement que ça, parce que j'ai quand même passé une grande partie de ma vie à manger dans des restaurants, mais que je l'ai résumé de façon encore plus pertinente en faisant la cuisine depuis 8 ans chez Table.
Pas de grande cuisine sans bons produits, disait Paul Bocuse. C'est un adage que de nombreux chefs, en tout cas, ont récupéré. Alors, qu'est-ce que ça a de plus pour vous, ce rapport aux produits que tous ces chefs qui valorisent et qui mettent en avant justement le produit ? Parce que vous allez rechercher des volailles d'exception, des poissons d'exception. Vous avez un rapport particulier avec l'Île-Dieu. C'est quoi votre rapport aux produits ? Vous le définiriez comment ? D'ailleurs, vous le dites dans le livre, j'aime bien parler de produits. Et pas d'ingrédients, c'est pas pareil.
Oui, parce qu'un ingrédient, ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est finalement un amalgame avec l'agro-industrie qui décide qu'un poulet, c'est un poulet, etc. Alors que, évidemment, il n'y a aucun rapport entre un poulet de batterie et une grande et belle volaille de Barbezieux ou de la Flèche ou de Le Mans, qui sont ces volailles anciennes que j'affectionne particulièrement. Voilà, ça n'a pas de rapport. Moi, je crois que mon rapport au produit, il est finalement très naturel. Je le plaide devant mon camarade Yves Camdebord, mais évidemment, on ne peut pas envisager de faire une belle cuisine sans avoir un produit qu'on soit fier de cuisiner, de faceter et de faire déguster surtout à nos clients. On fait à manger pour nos clients. Notre objectif, c'est quoi ? C'est les bien nourrir, c'est leur faire du bien. Et alors aujourd'hui, on est dans un tel appauvrissement de la relation et même de la négation de la relation que vous imaginez bien qu'il faut encore plus donner, plus faire attention et nourrir, aimer justement, à en nourrir.
Vous le dites depuis 2012, la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit.
Oui, c'est l'aphorisme, finalement, qui m'a fait créer Table, parce que j'ai trouvé que c'était très important, pour vous le dire rapidement, c'était de dire, voilà, si vous allez acheter des produits à l'agro-industrie, si vous allez manger dans ces marques industrielles, etc., ne vous plaignez pas que vous êtes dans un monde qui ne vous correspond pas, que vous trouvez injuste, que vous trouvez abîmant la planète, etc. C'est parce que vous en êtes le premier banquier. Si vous allez acheter les produits à des artisans qui sont respectueux de la nature, qui, sur un petit marché, etc., et que vous faites un peu la cuisine avec ça, ouais, eh bien, soyez fiers, vous êtes le financier d'une belle planète.
Il y a aussi un problème de pouvoir d'achat.
Alors, c'est une fausse question. J'ai toujours résisté par rapport à ça, je suis désolé, mais acheter un kilo de carottes fraîches, un citron et une bouteille d'huile d'olive, ça coûte probablement bien moins cher que d'aller acheter un sachet de carottes déjà
C'est sûr, on en a parlé la semaine dernière,
voilà.
C'est sûr.
Donc, et pareil pour le steak haché, qu'est-ce qu'on achète dans un steak haché chez son boucher qui va coûter 30% plus cher qu'un steak haché industriel, mais il y aura 90% de protéines.
Ouais, mais sur la belle volaille qu'on trouve chez vous à table, vous vendez
volaille,
à un certain
la
prix.
La belle volaille sur un marché... quand on fait le marché, ça vaut quoi? Ça vaut 7-8 euros le kilo. Ça vaut pas 60 euros le kilo, comme chez certains bouchers qui profitent aussi de leur notoriété ou de la situation. Donc encore une fois, moi ce que j'appelle, et notamment c'est pour ça que j'engage tout le monde à acheter mon livre, à le lire, parce qu'il en va d'un principe d'éducation. Encore une fois, pour pratiquer de la belle cuisine et nourrir bien, il faut aussi s'éduquer, il faut aussi se cultiver, apprendre à regarder. Sur un marché, moi, je peux témoigner, moi j'ai beaucoup appris de choses avec mon camarade de droite qui est Yves Camdebord. Il m'a appris aussi à regarder et à comprendre les produits.
Alain Passard, Alain Chapelle, vous en parlez, ouais. Christophe Pellet, Bernard Paco sont des chefs qui vous ont influencé aussi.
Laurent, le bon produit, bon, certes, il y a des produits qui aujourd'hui sont reconnus dans le monde de la gastronomie, mais le bon produit, ça peut être tout simplement le maraîcher qui est à côté de chez vous ou le volailler qui élève ses volailles, même si elles n'ont aucune appellation. C'est
bien
un bon
sûr.
Produit et c'est là que ça reste plus qu'accessible et que ce n'est pas plus cher que d'aller dans la grande distribution acheter un blanc de volaille tout prêt ou un sac de carottes taillées.
On en revient toujours à la même conclusion. Voilà. Pour bien manger et sans se ruiner, il faut cuisiner. Voilà.
Il faut cuisiner et il faut former son œil et l'éduquer à choisir sur un marché qu'est-ce qui fait sens, où est la fraîcheur, où est l'intention, où est l'amour d'une certaine
c'est
façon.
C'est une question de culture. Bon, on s'y emploie évidemment autour de cette table tous les samedis à rabâcher de manière presque méthodique ces préceptes. Mais finalement, comment on fait pour toucher aussi les gens qui ne sont pas formés ou qui n'ont pas la chance de nous écouter tous les samedis, mais ou d'avoir des gens qui vont les guider, parce que c'est ça, il faut aller chercher une population qui continue envers et contre tout à acheter, excusez-moi l'expression, de la merde.
C'est pour ça, je crois que moi, il faut écrire des livres. Moi, j'ai écrit ce livre aussi pour ça, parce que finalement, c'est une façon de montrer, en déclenchant aussi une forme de rêverie, un rapport à la cuisine qui n'est pas un rapport pratique avec des fiches recettes, avec des choses comme ça, mais montrer plutôt un univers et dire à chacun, vous êtes capable d'envisager dans le contexte d'un marché, quand vous vous promenez, que telle ou telle chose est intéressante. Et moi, je vais, par mes mots, par mon expérience, par ma fantaisie, vous donner l'occasion de passer à l'acte, c'est-à-dire de dire, tiens, cette salade, je vais la faire avec ça, je vais prendre ceci, je vais prendre cela, et je vais nourrir ma famille avec.
L'art de nourrir, c'est votre livre, Bruno Vergi, aux éditions Flammarion. Vous le dites d'ailleurs, vous avez appris la cuisine dans les livres. Eh bien, en lisant le vôtre, on apprend plein de choses, justement, sur l'importance de se reconnecter avec le bon produit et les justes cuissons. On en parle justement après, avec les beaux produits de printemps, les petits pois, la rhubarbe, ça vous inspire. Les rougets.
Formidable.
On a été pêcher le rouget tout à l'heure. Vous allez nous dire, tiens, comment
les
cuisiner
rougets,
le rouget.
Vous me prenez par les sentiments.
Mais je sais, c'est pour ça, on va parler de vos émotions. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous revoilà avec Bruno Vergi, le chef de table dans le 12e arrondissement de Paris. Il vient nous voir avec son livre « L'art de nourrir » aux éditions Flammarion, itinéraire d'un amateur devenu professionnel. Et quel professionnel ! Alors, l'amateur, tiens, le goût de l'amateur, on pourrait dire qu'il s'est aussi forgé du côté de l'île-dieu. Les poissons de votre enfance, le rouget, on est allé le pêcher tout à l'heure en Méditerranée. Il y en a aussi en Atlantique du côté de l'île-dieu. Vous avez un rapport particulier avec ce poisson, Bruno Vergi ?
Oui, le petit rouget, ça m'a toujours fasciné. D'abord parce que c'est finalement un peu, c'est un peu le chat de la mer. Il a des moustaches comme ça et puis il est un petit peu espiègle. Et moi, je me souviens petit, je mettais mon masque, mon tuba comme ça et je restais des heures dans l'eau à les regarder. Ce qui fait qu'après, quand je sortais, évidemment, je ressemblais à un rouget parce que j'avais le dos qui était totalement brûlé à la fois de soleil et de sel. Donc il y avait un mimétisme qui faisait qu'au bout d'un moment, le rouget m'adoptait et j'en avais pas encore la fantaisie de le goûter. J'avais simplement la passion de le regarder finalement. se promener comme ça d'algue en algue sur les petits rochers et farfouiller un peu partout.
Oui, le farfouilleur.
Pour ça que je l'appelle le farfouilleur, d'ailleurs, qui est une stricte invention.
Et alors, ce qui est amusant, c'est que quand vous êtes mis à le cuisiner, vous avez été triste parce qu'il a perdu sa couleur, le rouget.
Alors, c'est jamais facile un rouget parce qu'il y a une telle beauté, il y a de tels éclats dans ces orangés safranés jusqu'au rouge comme ça qu'on en a presque, on en a la saveur déjà. Je veux dire quand on le voit en vrai. Alors après, c'est vrai quand on le cuisine, on a tendance un petit peu à dégrader ça. Et alors j'ai trouvé une façon qui m'amuse beaucoup.
On en a parlé ici, allez-y, racontez-nous.
Vous en avez parlé déjà alors.
Bah, non mais racontez. Voilà.
Bah, non, c'est simple, c'est de le travailler finalement dans une tradition de méditerranéenne, parce que le rouget, ça amène le soleil, ça amène le coucher de soleil. Moi, je dis souvent, le rouget, c'est celui qui finalement a gardé le soleil toute la nuit au fond de la mer, et donc qui le récupère le soir et qui va le re-rendre le matin quand le soleil sort rouge de la mer. C'est vraiment ça. Alors, je fais une forme de petite tempura, mais avec une farine de riz ou une farine de pois chiche, une réduction d'hibiscus qui amène le légère acidité, parce que souvent, on va mettre sur une friture un jus de citron qui va désoler les goûts et absolument annihiler toute la beauté, la fantaisie de la friture. Et là, l'hibiscus va amener cette note légèrement florale et conserver
et la rougeur.
Évidemment le rouge magnifique de notre petit rouget qui sort presque vivant de la casserole.
Alors, c'est la saison des petits pois, des asperges, des fraises, de la rhubarbe. Nos auditeurs ont des questions pour vous. Une première question au 39-21.
Bonjour Bruno Verju, Laurent et bonjour à toute l'équipe, Nathalie de Nuit-Saint-Georges. Nous avons deux rangées d'asperges vertes dans notre jardin et j'aimerais avoir des idées de recettes avec ce produit pour ne pas forcément les manger de la même façon. D'ailleurs, je suis en pleine préparation d'un risotto aux asperges pour ce midi. Merci à vous et bonne émission.
Oh, eh bien, merci beaucoup et vous avez bien raison de risoter. Ça, c'est très important de risoter, mais on peut faire plein d'autres choses avec l'asperge verte.
Oui, moi je trouve ça formidable parce que quand elle va faire son risotto, on va utiliser plein de parties de l'asperge. Elle est partie un petit peu plus ligneuse, un peu plus difficile, qu'on a tendance à écarter. Dans le cadre d'un risotto, elle les aura taillées assez finement et ça va marcher. Ça peut même ramener un petit croquant qui va évoquer le riz. C'est formidable. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les têtes? Moi, en ce moment, il y a une chose que j'adore, c'est travailler l'asperge avec du cresson. Ça se trouve là-bas, dans sa région, elle
cresson
peut récupérer du cresson de fontaine formidable. Asperge cresson. Je fais une belle vinaigrette. Alors, là-bas, on va utiliser quoi? Une belle huile de noix, une belle huile de noisette, un joli vinaigre de vin. Évidemment, il y a des beaux vinaigres de vin. On va vraiment, vraiment appuyer sur la vinaigrette. Le cresson, on peut rajouter quelques herbes encore si on veut. On a de l'ail en ce moment, on n'en a pas parlé, mais c'est le printemps. L'ail nouveau qui n'a pas fait sa tête encore comme ça, des jolies cives. Et puis moi, j'aime la marier avec un petit peu d'anguille fumée.
Oh.
Et il y a quelque chose qui est formidable parce que ça nous ramène au printemps et ça nous remet finalement dans ces petits ruisseaux dans lesquels le cresson passe et on verrait bien une anguille se faufiler, non?
Sans aucun problème. Mais ce qui est bien aussi avec l'asperge, et souvent les gens n'osent pas le faire, c'est le cru. Voilà. À la limite, c'est juste cuire les têtes, les blanchir fortement, très légèrement, et après, les queues restantes, les couper très finement, alors soit à la mandoline, ou alors plus simplement, avec un économe, faire des pluches, voilà, et faire ce mélange cuit-cru avec votre coup de cœur, Laurent,
dites-moi,
de la semaine, les fraises.
Les fraises.
Fraises, asperges cuites et crues, un peu de gingembre et juste un trait d'huile d'olive.
C'est intéressant parce qu'il y avait Emmanuel sur le groupe Facebook des Bons Vivants qui voulait une association fraise-asperge. Ouais. Moi, je ne connaissais pas cette association.
Ouais, et Laurent, vous savez, la cuisine, pour simplifier les choses, les produits de saison, ils se marient très facilement ensemble.
Une autre question au 39-21.
Bonjour Laurent, toute l'équipe et Bruno Verju, Catherine de l'Oise. J'apprécie tout particulièrement la rhubarbe et je souhaiterais avoir des idées pour la cuisiner, pour accompagner un plat salé et aussi en amuse-bouche. Merci beaucoup.
Ah, la rhubarbe, Bruno Verju, elle vous inspire la rhubarbe?
La rhubarbe, c'est terriblement inspirant. On parlait tout à l'heure de l'hibiscus en amuse-bouche. Moi, je pense qu'on peut travailler quelque chose d'intéressant. C'est qu'elle va tailler son bâton de rhubarbe, faire une belle réduction d'hibiscus très très chaude et la verser sur la rhubarbe qui va venir se tempérer comme ça.
Jus d'hibiscus, on le trouve, on peut le trouver
déjà. Oui, on achète des fleurs d'hibiscus et puis on fait...
D'accord, mais on peut le trouver en jus déjà aussi.
Des questions. Peut-être qu'on peut le trouver en jus, je ne sais pas, c'est probable.
Mais en
tout cas, on peut trouver les fleurs séchées dans tous les endroits où on vend des herbes et des tisanes. Et la travailler comme ça, donc elle va être extrêmement, extrêmement tendre. Et justement, on peut évidemment l'associer, par exemple, avec des fraises. Moi, j'aime beaucoup aussi associer la rhubarbe juste tomber comme ça, et puis je fais une petite mousseline avec un beurre noisette. Donc on enrichit quand même assez notre rhubarbe qui amène l'acidité, la fraîcheur, mais il y aura la gourmandise du beurre noisette, et l'associer avec quelques petits pois, mais qu'on a tombé 20 secondes dans un petit peu d'eau gazeuse et une goutte d'huile d'olive, quelques pistaches, et puis, je ne sais pas, un petit peu de persil plat, par exemple, et on
a un plat
magnifique.
Il donne envie, le gaillard. Il s'appelle Bruno Verjus. C'est un plaisir de vous avoir à cette table, vous, le chef de table, de nous parler de cet art de nourrir. On a entendu votre rapport aux mots, aux émotions, aux sensations et aux sentiments que procure et déclenche la cuisine. Je vous engage vraiment à lire ce livre, qui est un joli manifeste pour le plaisir et puis pour aussi se reconnecter à nos essentiels, nos fameux essentiels, les produits de nos régions.
Moi, je trouve que c'est un livre qui est très sensuel.
Exactement, oui,
c'est vraiment
absolument.
Très sensuel.
Oui,
il faut le lire.
Merci Bruno Verjus, et à table bientôt, chez Table. On revient avec vous, Olivier Poul, c'est vos 2 minutes du vin.
Tout à l'heure, oui.
Particulière, oui. 120. Ah, oui, alors, 2 minutes du vin 120, ça va être compliqué.
Laurent, me dites pas qu'Olivier a perdu les clés de la cave, c'est pas possible.
Écoutez, on va vous en dire plus, mais
vous avez un pied de biche, sinon c'est ça.
J'arrive.
Et attention, un chef peut en cacher un autre. Le jeune chef Maurice Acco est notre invité dans un instant. À tout de suite. Merci d'écouter Europe 1 et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On accueille le jeune chef Maurice Acco dans un instant, mais juste avant, on écoute Silk Sonic. A tout de suite. Silk Sonic sur Europe 1, Leave the Door Open, eh bien c'est ce qu'on fait, on laisse la porte ouverte pour accueillir notre invité. Enthousiaste, motivé et créatif, il a grandi en Seine-et-Marne avant de passer son BEP de cuisinier. Après son apprentissage aux côtés de grands chefs, il participe à Top Chef avant d'ouvrir son restaurant. Une étoile au Michelin plus tard, il présente une émission de cuisine sur France 3 le samedi soir, donc ce soir, mais en attendant, ce midi, il est là avec nous. Bonjour Maurice Acco.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir, de vous accueillir. Alors, les auditeurs vous ont découvert dans Top Chef, je le disais, et puis aussi avec votre belle émission de cuisine, Cuisine Ouverte, tous les samedis soirs, 20h15, sur France 3.
C'est ça.
Vous serez où ce soir, tiens ?
Alors, ce soir, je serai à Marseille avec Alexandre Mazia.
Ah, le grand chef Alexandre Mazia.
Trois étoiles.
Trois étoiles au Michelin, absolument. Alors, votre restaurant s'appelle le Mosuke, à Paris. Vous rouvrez quand, alors, vous ?
Alors nous, on va rouvrir le 16 juin, le restaurant. Donc on ne peut pas ouvrir en mai parce qu'on n'a pas de terrasse. Donc on attend un peu et puis on ouvrira mi-juin.
Alors, on vous connaît depuis Top Chef, je le disais l'année dernière. Maintenant, sur France 3, vous avez 28 ans. Les choses vont vite hein, pour vous depuis cette belle enfance en Seine-et-Marne, dans votre grande famille.
Ouais, les choses vont vite et très vite. En un an, il s'est passé beaucoup de choses, mais bon, je ne vais pas me plaindre non plus. Hein.
Vous avez eu une étoile au Guide Michelin l'année dernière. Le restaurant ouvert très peu de temps, en fait. Hein, en 2 mois, il y a c'est même ça. Une petite polémique sur ça. On a dit, oh là là, il a son étoile très vite, celui-là.
Ouais, bah moi j'étais le premier surpris, hein, j'avoue, d'avoir aussi vite cette étoile.
C'est une belle surprise.
Ouais, c'est une belle surprise. Et puis, on l'a eu en 2 mois, mais on a eu 4 visites quand même en 2 mois, donc je savais pas que c'était possible.
Donc ils sont venus goûter.
Donc, oui, du donc coup, ils sont revenus. Donc.
Voilà, pour taire la polémique. De quoi vous rêviez après votre formation? Je parlais de votre BEP de cuisinier. Vous rêviez d'ouvrir un petit restaurant ou alors de vous retrouver dans une grande brigade de cuisine?
Bah, moi, je rêvais de me retrouver dans une grande brigade de cuisine. Moi, j'ai toujours été passionné par ces grandes brigades de palaces et autres. Et j'avais vraiment envie d'en être. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire en sortant de l'école. Et après, en évoluant dans ces grandes brigades et en apprenant, mes rêves, on va dire, ont un peu évolué. Et j'ai eu envie d'avoir mon propre chez moi, quoi.
Une cuisine créative qu'on pourrait qualifier de fusion, vous aimez pas le mot, on dit quoi? On dit pluriel?
Ouais, pluriel c'est mieux. Non, pluriel parce que fusion ça voudrait dire qu'on mélange 3 identités pour en faire une, alors que pluriel c'est vraiment 3 territoires qu'on vient faire combiner et cohabiter en fait au final.
Ah oui, mais aucun n'efface l'autre.
C'est ça.
Ah, c'est beau ça. Quel est votre goût de la semaine, Maurice Sacco?
Alors, goût de la semaine, pour moi, c'est assez simple. Je reviens tout juste d'Espagne. Et là-bas, j'ai goûté une superbe charcuterie de bœuf, un peu dans l'esprit d'une chechina espagnole. Et c'était juste génial. Je n'avais pas goûté à manger
comme
aussi.
Comme un jambon de bœuf, un
ouais,
peu hein.
Vraiment comme un jambon de bœuf, séché légèrement juste au sel et autres. Et c'était vraiment super bon.
Comme la viande, ce serait une viande des grisons espagnole.
Oui, ouais, c'est plus moelleux. C'est plus moelleux, ouais. Les Espagnols ont mis ça au point depuis quelques années, et c'est vrai que c'est très étonnant, parce qu'on est habitué à la viande des grisons, qui est quand même assez sèche, tandis que là, on est vraiment comme une charcuterie, comme un jambon particulièrement, avec le gras qu'il faut, et l'onctuosité, c'est très bon. Ça.
Alors Maurice Sacco, vous avez fait Top Chef en 2020, saison 11, comme pour de nombreux chefs cuisiniers, Top Chef a été pour vous un tremplin. Vous suivez toujours l'émission d'ailleurs, à la télévision?
Ouais, je suis, je ne vois pas tous les épisodes, parce que souvent... Je monte quand je finis service. Bon, ça tombe bien, en ce moment, les services finissent plus tôt. Mais je suis quand même, parce qu'il y a quelques candidats que je connais personnellement.
Alors, les concours culinaires déclenchent des vocations, hein, mais ils peuvent aussi, c'est vrai, on le dit de temps en temps ici, intimider les cuisiniers amateurs. Yves, ce samedi, vous nous mettez en garde contre cette cuisine de pro, sophistiquée, intimidante parfois pour le cuisinier amateur. Hein.
Oui, c'est vrai que les années 2010 et même un peu avant ont été marquées par le renouveau de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie à la télé. Ça a permis de faire reconnaître le travail de la main, le travail de l'artisan. Et ça, c'est remarquable. Entre les Top Chef, les Master Chef, Oui Chef, le premier peut-être avec Cyril, et le meilleur
Cyril
pâtissier.
Lignac, oui.
Mais aussi, à côté de ça, moi je me pose une vraie question. Un grand chef, est-ce que son rôle, ce n'est pas la transmission? Est-ce qu'on ne doit pas être beaucoup plus pédagogique?
Il y avait de la transmission, j'imagine, pour vous, Maury, vous l'avez ressenti, cette transmission de la part des chefs, du jury, de Top Chef?
Oui, il y a de la transmission. C'est sûr qu'il pourrait en avoir plus, forcément, parce que le temps est toujours limité. Et puis, on est dans un concours où les chefs ont une brigade. Donc, pour éviter qu'ils s'attachent trop à un candidat plutôt qu'à un autre, donc on limite au maximum cette transmission. Mais on a quand même pas mal d'échanges. Moi, j'ai beaucoup appris avec Paul Perret, par exemple. Et cette transmission, elle est toujours présente. Mais c'est sûr que j'en aurais aimé plus.
C'est un beau tremplin quand même. Voilà,
non, mais je suis totalement d'accord avec Maury que par rapport aux candidats, eux, reçoivent la transmission réelle des chefs et des jurys. Mais le grand public, est-ce que le grand public, quand il voit Maury cuisiner, présenter des assiettes d'exception avec beaucoup de technicité, avec un visuel parfait, est-ce que ça ne leur fait pas peur? Est-ce qu'ils ne se disent pas que je ne serais jamais capable de faire ça?
Je comprends
donc
ce que vous dites.
Oui.
Le dressage à la pince à épiler peut intimider et les mises en place. C'est vrai qu'il y a tout un travail de mise en place et d'organisation. Quoi. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que c'est très très bien ces émissions parce que ça a fait reconnaître le métier de la main, tous les métiers de l'artisanat, de l'alimentation. Ça, c'est très important. Mais attention, soyons plus pédagogues et transmettons aussi au public, surtout aux gens qui ne sont pas habitués à cuisiner. Amenez-nous à cuisiner des produits frais.
Et des produits de saison, bien entendu.
Oui, et puis c'est une vision aussi très restrictive de la cuisine. C'est-à-dire qu'il faut être capable, en 30 secondes, d'imaginer un plat génial avec 5 ingrédients. La cuisine, c'est pas que ça non plus. C'est aussi le temps. Et du temps, il n'y en a jamais dans ces émissions. Les mijotés, les cuissons longues, les choses comme ça, c'est beaucoup d'instantanéité quand même.
Alors, il y a certaines émissions, Laurent, vous le savez très bien, ce que vous faites, les pastilles que vous faites sur TF1, sont très pédagogiques. Et j'ai vu dernièrement, parce que je me suis intéressé...
Cuisine ouverte de Maury.
Cuisine ouverte, ouais. Sous Maury. Et j'ai trouvé, par contre, voilà, c'était intéressant parce qu'on apprend des choses.
Là,
moi, c'est le
temps,
seul
ouais.
reproche que je fais, c'est qu'on n'apprend pas assez de choses en voyant ces émissions.
Et ben voilà, vive la pédagogie. Bien, il va y en avoir de la pédagogie, tiens, jusqu'à midi et demi. Vous êtes d'accord, Maury hein?
Bah non, je suis totalement d'accord.
Hein. Et ben, on continue avec la pédagogie en cuisine. On revient juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, la bataille des régionales bel et bien lancée dans les Hauts-de-France avec Éric Dupond-Moretti qui ne sera pas tête de liste de la région mais qui mènera la liste dans le département du Pas-de-Calais. Annonce dans la Voix du Nord ce matin du garde des Sceaux qui dit qu'il ne veut pas que cette terre file dans les mains du Rassemblement National et que c'est pour cela qu'il vient à Marine Le Pen qui ne veut pas débattre avec lui. Réponse dès ce matin de la présidente du Rassemblement National qui a dit qu'elle avait vu beaucoup de forts en gueule venus la défier et qui était repartie humiliée par l'expérience. Vous l'entendrez et décryptage de ce duel annoncé avec Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Toujours dans le journal de la mi-journée, le coup d'accélérateur de la vaccination, nouveau record en France avec 620 000 vaccinations hier, un record depuis le début des injections. Et Emmanuel Macron, qui depuis Porto, lors du sommet européen, dit qu'il faut aussi accélérer la production de vaccins en Europe avant de penser à lever les brevets. Éclairage avec mon invité à la mi-journée, Marie-Paul Kieny, la présidente du comité vaccin Covid-19. L'actualité sportive, et ça y est, Neymar va re-signer pour 4 ans PSG. C'est ce que pourra nous confirmer Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Sur le terrain, les Parisiens toujours sous pression après la victoire de Lille à Lens hier 3-0, Lille toujours leader. Le PSG, lui, joue à Rennes demain. Autre affiche de la journée à 13h, Saint-Étienne-Marseille. Le temps de ce samedi, alors que l'on peut dépasser désormais les 10 km, c'est l'été avant l'été, nous dira Valérie Darmon. Et puis, vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan sur la personnalité de Nordal Lelandais, jugé à Chambéry depuis lundi pour le meurtre du caporal Arthur Noyer et bientôt pour la mort de la petite Maëlys. Beaucoup de zones d'ombre, vous l'entendrez. Et aussi, dans Tout Terrain, un témoignage très fort, celui de Colette, 93 ans, résistante. Elle est partie sur les traces de son frère mort dans un camp en Allemagne. Une rencontre très marquante avec une femme qui a un sacré caractère.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
12h de minutes, je vous laisse en compagnie de Laurent Mariotte.
On m'a refusé 3 fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache.
Oui.
Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Nous avons cuisiné depuis 11h les émotions et les sentiments qui se cachent derrière l'acte de nourrir avec le chef Bruno Verju. Il en a fait un très beau livre. Les poissons rouges de Méditerranée étaient parmi nous et nous revoilà avec notre invité, le jeune chef Maury Sacco. Il a cuisine ouverte avec nous sur France 3 tous les samedis soirs à 20h15, 20h25, c'est ce soir. Vous serez où ce soir? Vous avez dit à Marseille.
Hein, oui, à Marseille, c'est ça.
Avec
soir.
Alexandre Mazia. Le principe de l'émission, il est simple, c'est que vous mettez en avant un chef local et un produit local aussi. Hein.
C'est ça, c'est vraiment un principe très simple. Le produit, on part du produit, donc vraiment le produit, on va à la rencontre avec le producteur, l'agriculteur ou l'éleveur. Et ensuite, une fois que lui m'a parlé de ce produit, je veux rencontrer un chef qui me montre, lui, comment travaille ce produit et la relation qui se tisse entre eux. Et pour finir, je fais une recette avec un invité à la base de ce produit.
Ce sera quoi le produit ce soir, alors?
Le produit, on sera... Bah, là, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus large. On est parti sur l'anis. Donc, on va tourner autour du pastis. Et un producteur de pastis très particulier, parce que son pastis est vraiment travaillé les limites sur une école du gin. C'est un pastis qu'on peut carrément boire sec. Et ça,
oh,
c'est assez fou.
Ah, bah, là, on y est avec le pastaga, hein, Marseille.
Ah ouais. Le soleil, l'anis.
Votre... Moi, ça me parle. Hein.
Eh oui, bah, ça parle à plein de gens, hein, je crois. Avec modération, bien sûr, mais avec plaisir.
Vous sortez le jeu de boule ou pas?
Ah oui, mais dans la coinche.
Maury, votre restaurant s'appelle Mosuke. Qu'est-ce que ça veut dire, ce nom?
Alors, Mosuke, c'est une contraction entre mon nom, donc mon prénom plutôt, Maury. Et Suke, qui est tiré de Yasuke, qui est l'histoire du premier et seul samouraï noir qui existait au Japon et qui a vécu au Japon. Donc, c'est un peu une belle résonance pour ce qu'on fait au restaurant. On a la double influence entre l'Afrique et le Japon. Et ce personnage de Yasuke est vraiment un peu une personnification de ce qu'on fait.
Mais d'où vient l'amour du Japon?
Moi, il me vient depuis tout petit, il me vient du manga. en fait.
Bah, on dirait d'ailleurs un nom de manga, hein, votre nom de resto.
Ouais, ça sonne un peu un nom de manga. Et ça vient du manga, et après en grandissant, c'est vraiment devenu une passion de la culture globale, vraiment au sens large.
Vous aimez les mangas de cuisine ?
Ouais, j'aime bien les mangas de cuisine, j'adore. C'est toujours un peu théâtralisé, mais c'est sympa.
Mosuke, votre restaurant est dans le 14e arrondissement de Paris. Comme de nombreux chefs, vous avez résisté avec la vente à emporter. Et là, ça y est, vous gambergez les prochaines recettes pour la réouverture fin juin. Et c'est l'heure du plat du jour. Et vous êtes venu avec un plat du jour qui est important pour vous. Alors présentez-nous ce joli plat du jour qui embaume déjà le studio Coluche depuis quelques minutes.
Alors le plat du jour aujourd'hui pour moi, ça va être le bœuf maffé. Donc pour moi c'est une recette d'enfant, c'est une recette familiale, c'est une recette traditionnelle. C'est
vos parents sont originaires du Mali.
C'est ça. Mes parents sont originaires du Mali et c'est une recette qui c'est une recette qui fait partie du quotidien au Mali. Hein. Le mafé, c'est moi je sais que quand j'étais jeune, au moins une fois par semaine, on en avait à la maison. Quoi,
et donc, pas beaucoup d'ingrédients. Hein. Alors il y a quoi? Il y a de la pâte d'arachide.
Il y a de la pâte d'arachide, donc on part sur une base de pâte d'arachide avec une garniture aromatique de tomates, d'oignons.
Ouais.
Et après on fait revenir concentré de tomates, du bœuf. On mouille et on fait cuire, vraiment tranquillement. Et c'est la cuisson en fait, c'est avec la cuisson que la magie se passe. Il y a vraiment une osmose qui se fait entre le bœuf, la garniture aromatique, la tomate et cette pâte d'arachide qui en fait, au bout d'un certain point de cuisson, en fait le gras de la pâte d'arachide atteint son point de fusion et là il tranche. Et c'est vraiment à ce moment-là où on passe d'un goût de purement cacahuète, arachide, au goût qu'on connaît du mafé. Quoi.
Quel morceau vous avez choisi là, pour ce mafé de bœuf aujourd'hui?
Alors pour le mafé de bœuf, moi je choisis du paleron.
Donc, pour soit cuisson longue,
ouais, paleron de bœuf,
accessible
qui marche
en plus, hein.
Aussi bien en cuisson longue qu'en cuisson courte. Et c'est important pour moi parce que justement, en restaurant, bah, c'est et c'est aussi moi personnellement la petite fantaisie que je m'autorise. Bah, sur les cuissons de bœuf, je ne mange pas comme mes parents, je mange très bien cuit, très très cuit. Moi, je mange justement plutôt saignant en bleu. Donc le paleron, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne aussi bien avec une très légère cuisson, si on le marine au préalable, qu'avec une cuisson longue. Donc,
c'est très légèrement épicé, pas beaucoup, ça vient titiller en fin de bouche.
C'est quoi comme épice?
Alors, comme épice dedans, on retrouve une épice qui s'appelle le soumala. Après, on a aussi du cancancan, qui est un mélange ivoirien. On retrouve du poivre, une épice qui se rapproche de la muscade. Et après, il y a aussi le poisson fumé qui embaume beaucoup. Donc moi, le poisson fumé, j'utilise le katsuobushi japonais et des crevettes séchées du Cameroun.
D'accord.
Et c'est ce qui va aussi ramener un peu un côté un peu salin et un peu fermenté, fumé.
Et ça, vous le mettez dans la sauce?
Ouais, dans la sauce. Mmh.
Moi, ce que je trouve, Laurent, c'est qu'il y a un vrai équilibre. Je trouve que toutes les saveurs sont vraiment respectées. L'épice, elle est juste ce qu'il faut. Elle dénature pas du tout ni le riz, ni la viande de bœuf. C'est vraiment très, très soyeux, très équilibré à la dégustation.
Ah, merci.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls?
Je vous ai apporté un vin de soleil, parce qu'on a envie d'un peu de soleil avec ce plat quand même. Il faut de la générosité, le plat est généreux. Il faut un vin avec de la générosité, un petit peu de largeur. J'ai apporté un vin des terrasses du Larzac. La côte d'Arboras, du domaine de la réserve d'eau. Et c'est une terrasse de Larzac qui garde une fraîcheur quand même. Hein, et le vin n'est pas trop lourd, n'est pas trop confit. Il y a une belle fraîcheur qui, je trouve, vient bien se caler sur cette sauce qui, elle aussi, est large mais fraîche. Vous voyez ce que je veux dire?
On est dans l'appellation Languedoc, là?
On est dans le Languedoc, oui.
Ça peut être l'occasion de rendre hommage à un grand vigneron qui nous a quittés il y a quelques jours, Yves.
Hein. Oui, on a perdu même malheureusement deux vignerons dans les 10 derniers jours. Laurent Vaillet, du domaine de la Grange de Père, que tout le monde connaissait. Et malheureusement, le Jura aussi est en deuil avec le domaine des Tournelles et Pascal Cléret, qui nous a quittés aussi avant-hier.
Et on pense à leur famille, deux disparitions tragiques.
Et on pense à tous les vignerons qui vivent tous en ce moment une période très compliquée.
Avec le gel.
Le gel est passé par là, mais même en dehors de ça, on a tous vécu une année compliquée. Eux aussi, les ventes de vin se sont pas très très bien portées. Et je pense qu'aujourd'hui, le métier de vigneron est plus difficile que jamais. Donc j'ai une pensée pour tous les vignerons.
Vous soutenez les vignerons, évidemment, aussi, Maurice Sacco.
Forcément, hein, évidemment. C'est les deux vont de pair. Et puis, sans vignerons, pas d'accord. Et puis, ça serait quand même...
C'est ça.
L'un ne va pas sans l'autre. Le mets ne va pas sans le vin.
Quel produit vous nous conseillez, Maurice, pour découvrir la cuisine africaine quand on est un néophyte, comme de nombreux auditeurs, hein, comme nous, ici, autour de cette table? Voilà, ce sont, comme vous le dites, des goûts, des parfums, des épices bien particuliers.
Ça peut commencer assez simplement par déjà changer le poivre qu'on a dans le moulin. Il y a un poivre qui s'appelle le poivre du Penja, qui vient du Cameroun, qui commence à être facilement accessible, on va dire, en grande surface et autres. Et c'est un poivre qui, blanc ou noir, a une chaleur, a vraiment un goût qui est très particulier, en fait. On peut se dire que, un peu sur le mode de ce qu'on fait en Italie, par exemple, une pâte simple au beurre avec du poivre de Penja dedans, et on a déjà tout le goût et ces aromates qui vont arriver, quoi.
Il faut en profiter pour rappeler, surtout, n'achetez pas du poivre moulu, s'il vous plaît, parce que ça n'a pratiquement aucun intérêt. Achetez les grains. et les moudre ou les écraser à la minute.
J'avais une question. Pourquoi la cuisine asiatique s'est imposée, la cuisine d'Amérique du Sud s'est imposée? Pourquoi la cuisine africaine n'arrive pas à s'imposer? Il n'y a pas beaucoup de restaurants africains, finalement, à Paris, on les compte sur les doigts d'une main.
Ça y est, elle arrive.
Elle arrive, c'est ce que j'allais répondre.
Cette cuisine.
Et je pense que c'est aussi bien les palais qui n'étaient pas encore préparés, mais aussi bien aussi l'offre qui ne s'était pas adaptée. En fait, l'offre de cuisine africaine était restée sur ce qu'on mangeait en Afrique, qui n'était pas forcément adapté au palais occidental, ni même au monde de consommation occidental. Et justement, il y a toute une jeune génération comme moi qui, eux, ont grandi, sont nés en France, ont ce palais et savent comment on mange, effectivement, en Occident et en France, et sont en train justement d'actualiser cette cuisine, en fait. Et elle avait besoin d'être actualisée, comme toutes les cuisines, comme la cuisine française, on a retiré les farines des sauces, on a allégé les sauces, et c'est ce travail qui est en train de se faire sur la cuisine africaine. Donc,
c'est pas que de la pâte d'arachide dans la cuisine asiatique. Exactement.
Donc, on est en train de l'actualiser, mais c'est bien. Moi, je sens qu'il y a un vrai mouvement.
On se retrouve dans un instant avec vous, cher Olivier Pouls, pour vos deux minutes du vin.
Qui n'en seront pas.
Qui n'en seront pas ce samedi, exactement.
Je n'étais pas là, mais il a perdu les clés de la cave.
Vous nous avez préparé. Trois accords étonnants, juste après la pause.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus, hein, si vous nous rejoignez. Notre invité s'est installé depuis peu, avant midi. C'est le chef Maurice Sacco du restaurant Mosuke à Paris, dans le 14e arrondissement. Il est venu nous voir donc avec ce joli maffé de bœuf.
Délicieux, maffé.
Délicieux, que vous avez déjà terminé, mais même bien avant la pause.
C'est la règle, on mange toujours chaud.
C'est vrai.
Ça a un défaut.
Il n'y en a pas assez.
Mais il a fini aussi, mon ami Yves. Hein. C'est vide. Hein.
On vous retrouve ce soir sur France 5 à 20h15 dans Cuisine Ouverte. Maury, une émission dans laquelle vous allez à la rencontre, on le disait, des chefs locaux, des producteurs locaux. Et ce soir, vous serez donc du côté de Marseille pour revisiter le pastis. Et comme nous, vous aimez bien avoir autour de vous des invités bons vivants. François Berléand, François-Xavier Demaison, qui sont déjà venus à cette table, sont passés par votre cuisine aussi. Vous êtes avec qui ce soir à Marseille?
Alors ce soir à Marseille, je suis avec Olivier de Benoît.
Ah mais il est venu aussi, humoriste.
Ah bah voilà. Humoriste.
Oui, que des solides gaillards de la fourchette.
Oui, mais voilà, c'est des gens qui aiment manger et qui savent manger, qui savent bien acheter aussi les produits en saison. On parlait tout à l'heure de l'importance avec Bruno Verjus de se forger un palais, hein, l'éducation au goût est capitale. Est-ce qu'il y a des saveurs que vous préférez à d'autres, vous, en tant qu'humain et en tant que chef?
Ouais, bah moi naturellement, il y a une saveur qui moi revient toujours dans ma cuisine, c'est l'acidité. Je suis un gros fan d'acidité, donc on en retrouve sous toutes les formes. Et après, il y a d'autres parfums qui reviennent assez, on va dire, c'est plutôt, je pense, le fil de mon enfance, mais je suis très porté sur le piment et sur le fumé. Donc c'est aussi deux parfums qu'on retrouve énormément dans ma cuisine.
Vous n'êtes pas un fan de l'amertume, je crois.
Non, la mer, j'y arrive pas. Après, ce qui paraît, ça se développe avec l'âge. Donc je perds pas espoir.
Mais c'est vrai, ouais, mais moi je suis un fan de l'amertume, mais j'y suis
plus. Parce que vous êtes plus âgé déjà.
Merci de le rappeler. Mais bien sûr, c'est pour ça.
Donc, trop jeune pour après.
Et il a 28 ans, Maurice Sacco. Alors tiens, justement, c'est l'heure de vos deux minutes du vin qui n'en sont pas, Olivier Pouls, aujourd'hui. Je vous ai lancé un défi. Nous proposer trois accords avec des plats, mais sans descendre à la cave, donc pas de vin. On va commencer par un alcool que vous connaissez bien en tant que Belge.
Oui, hein, les bières.
Bah oui, voilà.
Notamment les bières d'abbaye. Et c'est vrai qu'il y a une grande mode de la bière. On a parlé des microbrasseries.
Avec modération,
tendance,
bien
voilà,
sûr.
Et de la tendance à boire davantage de bière. Mais la bière s'invite facilement à table. Je vais vous donner un exemple assez probant, je trouve. Vous pouvez l'essayer chez vous. Hein. Essayez un poulet rôti. Avec une peau, vous savez, bien dorée, bien croustillante. Vous accompagnez ça d'une salade d'endives. On parlait d'amertume. Vous allez avoir l'amertume, puis ça, on est vraiment dans le Nord. Et vous accompagnez ça d'une bière d'abbaye, une triple, avec ce côté là aussi un peu fumé, un peu caramélisé et porté par de l'amertume. Et vous allez voir que le jeu du poulet rôti, le petit gras, le côté croustillant de la peau et la bière, c'est vraiment intéressant.
Volaille, bière en accord. On retient poulet rôti du dimanche et une bière belge. Ça, c'est bien, on prend. Avec des produits de la mer, on a beaucoup parlé de poisson depuis le début de cette émission, depuis 11h. Ouais, qu'est-ce que vous nous conseillez? Quel produit de la mer?
Un accord comme un uppercut, les huîtres et le whisky.
Ah,
mais ça va.
Ça, c'est incroyable.
C'est incroyable.
C'est bluffant.
Alors, vous prenez des
huîtres. Vous connaissez, Maurice?
Il faut des huîtres d'une belle taille. De la plate, idéalement, mais sinon, on prend une belle huître numéro 2 ou numéro 1 pour avoir un peu de mâche. Et vous prenez un whisky tourbé. Les whiskies du Connemara, par exemple, ça vous parle, mon cher Laurent.
Et comment? Bien sûr.
Avec ce côté un peu tourbé. Eh bien, rencontre entre l'iode de la mer, l'iode de certains whiskies d'ailleurs, qui sont élevés en bord de mer et qui donc prennent ce côté un peu iodé, C'est absolument fantastique. Et là aussi, c'est une explosion en bouche.
J'ai découvert ça, moi, c'est vrai, il y a une dizaine d'années avec Michèle Vettelet, qui est une femme sommelière en Bretagne, qui était chez Anne de Bretagne avec son mari Philippe Vettelet. Et cet accord, Maurice, je vous encourage vraiment à le déguster, même avec des huîtres un peu tièdes avec du curry, c'est assez bluffant. Et pour finir, tiens, si on veut pas d'alcool, tiens, un accord avec une boisson sans alcool.
Le thé, et là, évidemment, on est obligé de faire un petit clin d'œil à Yamcha, à Aline Grattard et son mari,
le restaurant qui sont
des grands spécialistes des accords entre les mets et les thés. Et vous essayez un thé de Ceylan, par exemple, avec un curry. Ou alors, plus surprenant, essayez une viande rouge grillée et un thé Royal Yuan. Vous savez, ce sont des thés qui sont tanniques. Tanniques comme les vins rouges.
Eh oui.
Et bien là aussi, il y a quelque chose qui se passe
voilà.
En termes d'émotion.
De la volaille et de la bière, des huîtres et du whisky. Et puis pour finir, donc...
Du thé, du curry, de la viande. Il y a plein de choses très intéressantes. Et Maurice, vous êtes fan de saké, vous, je crois.
Ouais, moi j'adore le saké. J'adore le saké parce que je trouve qu'en accord, là où le vin se construit sur des contrastes, le saké, c'est vraiment un accompagnement. C'est comme rajouter au final une sauce à un plat. Et j'adore cette idée en fait, de marier le saké à la nourriture.
Mais parce qu'il n'y a pas d'acidité dans le saké.
C'est ça.
Oui, c'est très floral, aqueux, même, en fait. Hein. Oui,
bah,
oui exact. Oui.
On a des nez qui sont très flatteurs. On a beaucoup de fleurs. Et en final, en bouche, sur la texture, c'est très aqueux. Donc, ce n'est pas l'acidité. C'est vraiment, on vient chercher. Nous, on en a un qui est non filtré, non pasteurisé, qui a des notes de champignons et du coup, l'accord est assez évident sur des plats à base de champignons. Quoi.
Il a les yeux qui brillent quand il parle de cuisine. C'est le jeune chef Maurice Acco qui est avec nous jusqu'à 12h30. C'est bientôt l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Maurice. C'est juste après la pause. On va revenir sur vos grandes émotions culinaires. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie à notre table avec le chef Maurice Acco que vous retrouverez ce soir à 20h15 sur France 3. 20h15 ou 20h25, je me gourre dans l'horaire.
Alors
20h25, cuisine ouverte. 20h15, on est sûr de ne pas louper comme ça. Voilà, c'est très bien.
Vous
êtes originaire d'une grande famille. Vous avez grandi en Seine-et-Marne, je le disais tout à l'heure quand je vous ai présenté. On cuisinait beaucoup à la maison, Maurice.
Alors ouais, à la maison on cuisinait beaucoup, mais pas moi.
C'est vrai?
Ouais, ma mère cuisinait énormément avec mes sœurs et autres. Mais,
grande famille, 9 frères et sœurs vous êtes. Hein.
Ouais, on est 9 frères et sœurs, 5 filles et 4 garçons.
D'où vient la passion de la cuisine alors?
Moi ça m'est venu vraiment en faisant le métier de cuisinier en fait. En allant à l'école hôtelière, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment apprécié le geste, apprendre des choses et tout, mais c'est vraiment le métier de cuisinier.
Et pourquoi là-bas. Vous avez choisi d'aller à l'école hôtelière alors?
Alors l'école hôtelière, c'est parce que justement j'adorais ce que je voyais quand je regardais la télé et autres, les grandes brigades dans les palaces et autres, et c'est vraiment ce qui m'a poussé vers cet univers.
Ça vous a fait rêver ça, hein, cet esprit vraiment. De brigade, hein, c'est vrai. Hein. Vous avez travaillé avec Christophe Moret d'ailleurs, Thierry Marx aussi.
Thierry Marx aussi.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ces chefs?
Ils m'ont déjà appris qu'une rigueur du quotidien, en fait, au final. C'est que le fait d'être bon une fois, c'était pas suffisant, en fait. Le plus dur, c'était d'être bon sur la durée.
La fameuse
et d'être
régularité.
Bon à chaque service.
Maurice, vous rouvrez votre restaurant Mosuquet le 9 juin à Paris, dans le 14e arrondissement. J'imagine que vous avez eu le temps de gamberger aux plats que vous allez proposer à la carte. Quelques idées, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors, il y aura ce mafé en version gastronomique, hein, vous nous l'avez dit. Et quoi d'autre?
Là, actuellement, on est en train de travailler les essais sur une tuile en amuse-bouche autour d'un plat éthiopien qui s'appelle le Messirwat, qui est en fait comme l'équivalent un peu éthiopien du dalle de lentilles, de lentilles corail. Donc, c'est vraiment un dalle de lentilles corail où on met le mélange berbéré, qui est un mélange d'épices éthiopien. Et en fait, ça se mange avec la crêpe traditionnelle qui est l'injera, en fait. C'est une crêpe à base de farine de teff. Qui est légèrement fermenté et donc on est en train de travailler pour faire une tartelette, donc un fond de tartelette avec cette farine de teff, mais qui n'a aucun gluten, donc c'est un peu compliqué. Mais
c'est passionnant parce que là vous venez de citer des ingrédients, des noms qu'on ne connaît pas. Non mais c'est ce qu'on disait avec Olivier. Voilà,
la
tendance de la
univers.
Cuisine africaine démarre seulement en fait avec des jeunes chefs comme vous qui portent un nouveau regard sur ces ingrédients et qui nous sortent du mafé et du poulet yassa quoi,
c'est
forcément. Hein.
Et c'est d'aller chasser justement ces nouvelles choses et ces plats aussi qui sont un peu emblématiques à ces endroits-là, mais qui sont méconnus et moi j'ai envie de présenter le goût et se dire voilà le goût est bon, mais sur la technique et autres, le ramener sur une tartelette, travailler ce dalle de lentilles en siphon et vraiment venir changer les textures pour dérouter même celui qui connaîtrait ce plat en fait.
Et vous aimez jouer avec la nourriture. Et nous on va jouer avec vous maintenant, tiens. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Maurice Acco, tiens, quel est le goût de votre enfance?
Alors moi, le goût de mon enfant, ça serait le tchéboudjian, mais celui de ma mère, enfin n'importe lequel. C'est un plat que qu'on mangeait souvent les week-ends et qu'il fallait réclamer à ma mère pour qu'elle le fasse. Je me souviens qu'on commençait une semaine à l'avance pour pouvoir avoir ce plat le week-end. Quoi.
Rappelez les ingrédients.
Donc les ingrédients, en fait, on est sur une base de riz. Donc c'est souvent du riz d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Et en fait, c'est ce qu'on peut appeler ailleurs un riz au gras aussi. Donc on fait revenir les légumes, donc on peut retrouver de la carotte, du chou, de l'aubergine amère africaine, du poisson fumé, donc poisson fumé qu'on fait énormément au Sénégal, un peu de yet, qui est en fait un genre d'escargot de mer sénégalais. On les fait revenir, on les fait cuire en fait dans un bouillon. On récupère ce bouillon et on s'en sert pour faire cuire notre riz par la suite. Donc en fait, le riz prend tout le goût de la garniture aromatique.
Un travail d'osmose.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment un vrai travail d'osmose et c'est un plat qui prend 2-3 heures à faire quoi, quand même.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Maury?
Alors, premier plat, j'ai pas été chercher loin, c'était, si je me souviens bien, une omelette au fromage. Et je me souviens que je l'ai bien raté quand on m'a montré ce que... En fait, je me suis rendu compte
qu'il a été raté. C'est technique, l'omelette. Il faut ramener les bords vers le centre pendant une minute ou deux.
Il paraît que Paul Bocuse jugeait ses candidats.
Robuchon aussi, oui. Ouais.
Fais-moi une omelette, tiens.
C'est ça. Bah, la première fois que j'ai fait une omelette à l'école hôtelière, je me suis rendu compte que j'ai jamais fait d'omelette avant. Quoi.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Je dirais pas un repas, je parlerais d'un plat qui m'a vraiment marqué. C'était la salade de chez Kei Kobayashi. Je suis un vrai viandard.
Chef
ou autre,
japonais à Paris.
Ouais, un chef japonais à Paris. Et je veux toujours de la protéine à mon repas. Et quand j'ai vu un plat arriver avec de la salade, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, quoi? Et en fait, en le mangeant, c'est vraiment, j'ai jamais pris autant de plaisir à manger une assiette de légumes, quoi. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit
sur le végétal.
Sur la cuisine du végétal et sur tout ce qu'on pouvait faire un peu avec le végétal, au final.
Votre pire repas?
Mon pire repas, c'est... Bon, j'ai rien contre le Maroc, mais c'est au Maroc qu'au bord de plage. D'ailleurs, j'ai très bien mangé, mais là, j'étais sur un restaurant au bord de plage et en fait, je me suis dit, on va manger du poisson frais et autres. Et je me suis retrouvé à manger que, comme malheureusement souvent sur des restaurants de plage, que des trucs ouverts en boîte et surgelés
Surgelé,
et
c'était
un repas vraiment détestable parce que j'avais cette mère qui me narguait en face et moi, je mangeais du poisson surgelé. Quoi.
Votre plus grand succès en cuisine, tiens?
Ça va être l'ouverture de mon restaurant. C'est mon plus gros succès parce que je suis content, parce que c'est une belle ouverture. J'ai réussi à monter une équipe qui a tout le monde attiré dans le même sens. Et c'est aussi important que la cuisine, au final, l'équipe. Parce que on est au quotidien ensemble et on passe plus de temps avec l'équipe qu'avec sa famille, au final, quand on est cuisinier. Donc,
on le disait,
je suis content d'avoir pu monter cette équipe. Quoi.
Et comment? Votre bande originale pour cuisiner, tiens, qu'est-ce que vous écoutez à la maison ou au resto?
Non, il n'écoute pas Michel Sardou.
dis donc, il pourrait, il aurait le droit.
Mais j'ai gardé.
Il y a une très belle chanson de Michel Sardou, qu'est-ce qui vous prend?
C'est le like Nicolas Marin.
Mais pas que. Bon, bah alors.
Alors, on est plutôt. On est une équipe jeune, on est plutôt sur du rap. Donc, moi, j'écoute. Une musique que j'adore, c'est une musique de Ludacris et Nate Dogg, qui est ancienne, hein, qui date des années 2000, qui est Harry Records.
On prend. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Maurice Sacco?
Alors, moi, je ne vais pas chercher loin, je vais prendre toute la famille, mais au grand complet.
Elle est grande.
Alors, il faut savoir qu'il faut prévoir une grande table, parce que quand je prends frère, sœur, compagnon, neveu, nièce, on est au moins 40.
Et quel plat vous emmèneriez sur une île déserte?
Sur une île déserte, moi, je prendrais... Alors, un karaage de poulet avec une mayonnaise épicée. Moi, je suis gros, gros fan de poulet frit, mais sous toutes ses formes. Et je pense avoir goûté tous les types de poulet frit, mais le karaage, la version japonaise, c'est...
Grand succès, le karaage qu'on voit beaucoup dans la street food aujourd'hui débarquer, ce karaage de poulet. Et le mot de la fin, F-A-I-M, Maury?
J'ai envie de dire tous au restaurant.
Ah oui, on peut le redire,
tous au restaurant.
Le 19 mai en terrasse et le 9 juin en salle.
C'est
et
ça.
vous rouvrez, rappelez-nous, fin juin, vous avez dit.
Le 16 juin.
D'accord, okay. Mi-juin alors, très bien.
Mi-juin.
Merci d'être venu, Maurice Sacco.
Merci à vous pour l'accueil.
Et on vous retrouve ce soir sur France 3, Cuisine Ouverte. Vous serez à Marseille avec une de vos idoles, le chef Alexandre Mazia.
Totalement.
C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est les rencontres aussi.
Les rencontres et les échanges.
Eh bien, on était ravis de vous rencontrer, d'échanger avec vous aujourd'hui.
Merci.
Le jeune chef Maurice Sacco. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef. Julien Amat, Alice Foss, Marion Sauveur à la rédaction. Merci Julien Blanc à la réalisation. Merci Marie Mougin à la programmation. Salut Yves Candebord.
Salut Laurent. Salut Olivier.
Salut Olivier Poulx.
Je vais rechercher mes clés de la cave. Tiens.
Voilà.
Je vais les retrouver quand même.
Faites le marché, la cuisine, c'est important, vous le savez. Et on se retrouve samedi prochain en direct depuis une ferme du Calvados. Et Gaëtan Roussel sera avec nous et il viendra même chanter en live. On sera là donc samedi à 11h. Bon week-end sur Europe 1 et dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle.